Bien, bonjour à tous, et voilà, c'est un honneur d'être là pour la deuxième fois de ma vie à Antony, en fait. Oui, deuxième fois. Voilà, c'est ce sujet de la louange, ben, on l'a déjà traité d'une certaine manière là, ce dimanche. Donc ça va être difficile de passer après tout ça, mais ce sera l'occasion peut-être de prendre du recul et de comprendre pourquoi on fait ça, d'une certaine manière. En fait, moi, j'ai pas particulièrement d'expertise là-dedans. Je suis musicien de très loin. J'ai délaissé complètement mon instrument, donc la louange par la musique qui nous est demandée, bah, pas trop. En semaine, je chante pas beaucoup, je sais pas vous. C'est pas quelque chose de quotidien. Encore moins, j'écoute pas trop de musique, donc encore moins de chants de louange. Donc là, ça va être un effort pour moi finalement de parler, de vivre de louange et d'adoration. Et c'était finalement peut-être l'exercice, un bon exercice pour moi de me confronter à ça et de me questionner là-dessus. Donc en fait, ce que je vais vous partager, c'est plutôt une réflexion personnelle nourrie de la parole de Dieu. Et j'espère que vous aurez de quoi vous nourrir de ça. Donc d'abord, en fait, on va parcourir trois questions que je me suis posées dans cet ordre. Pourquoi est-ce un but pour le chrétien de louer, de vivre de louange et d'adoration? Ensuite, quels sont les exemples communs qu'il y a dans la Bible de louange et d'adoration? Et je vais me concentrer sur, rappeler qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on a eu un petit peu, me concentrer sur quelques louanges très rapidement, et après vous partager, moi, deux psaumes qui me touchent particulièrement. Et après, ce sera l'occasion d'en tirer un enseignement sur comment vivre de louange et d'adoration aujourd'hui, au quotidien. Voilà. Donc, est-ce un but pour le chrétien de vivre de louange et d'adoration? Et très rapidement, j'ai eu ce verset qui est venu, c'est Osée 6, verset 6, qui fait le lien entre ce que Dieu demande dans l'ancienne alliance et ce qu'il nous demande aujourd'hui. Et vous verrez, ça a beaucoup de sens. Donc, Osée 6, verset 6. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Donc, c'est l'Éternel qui parle à travers la bouche d'Osée en rappelant au peuple cet enseignement. Je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Et moi, en lisant ça, finalement, je me suis dit, ah oui, effectivement, la manière dans l'ancienne alliance d'adorer Dieu, pour s'approcher de lui, c'était d'offrir des sacrifices régulièrement pour être purifié et après pouvoir s'approcher de lui par la louange, l'adoration. Et Dieu dit, non mais certes, vous faites des sacrifices, mais moi ce que je veux, c'est votre bonté de cœur, votre honnêteté envers moi et la recherche de la connaissance de ce que je fais et de cette gloire que je vous donne pour vous. Et en fait, pourquoi ce verset, il est très très important? Parce que Jésus le cite deux fois. Et on va aller dans Matthieu 9, d'abord. Donc c'est Jésus qui le rétorque à ses accusateurs, toujours. Matthieu 9, verset 13. Donc, le contexte, Jésus mange avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs, et on lui dit... Mais pourquoi tu manges avec des gens de mauvaise vie? Et Jésus répond, allez apprendre ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Et donc Jésus rappelle ici instamment à ces gens qui sont attachés à cette loi qui sont un peu humanisées d'une certaine manière, à ces rituels auxquels ils sont attachés, ils leur rappellent, non, certes vous faites ça, mais c'est vraiment la bonté et avant les sacrifices. Et donc là, on comprend que Dieu désire vraiment, c'est Jésus qui nous le rappelle, oui, il veut la bonté des hommes, des êtres humains, et qu'il recherche la connaissance de Dieu. Et il y a la deuxième fois où Jésus le rappelle, un peu dans un contexte similaire, au chapitre 12 de Matthieu, toujours, donc là, c'est les disciples, un jour de sabbat, ils avaient faim, ils étaient dans les champs, ils ont cueilli des épis, tout simplement. Et on lui dit, mais voilà, les personnes qui accusent ses disciples à Jésus disent, mais pourquoi ils ont fait ça un jour de sabbat, ils n'ont pas le droit de travailler. Et Jésus répond, si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. Encore une fois, Jésus nous dit, mais certes, vous avez ces rituels, ces sacrifices, ces manières de faire, ces traditions, mais ce n'est pas ça qui importe. C'est vraiment le désir de se tourner vers Dieu, de rechercher la bonté, de rechercher la connaissance de Dieu. Donc voilà, j'insiste sur ce verset, parce que moi-même j'ai été surpris de le retrouver 3 fois dans la Bible, cité 2 fois par Jésus. Donc là on comprend l'importance quand même de ce que ça signifie, qui est rétorqué comme un argument à des religieux qui croient qu'ils sont dans leur bonne voie. Et donc la louange, vraiment, ça passe. Finalement ici, on en comprend non pas par ces choses à faire, etc., pas par ces rituels seulement, tant qu'ils sont faits de bon cœur, mais vraiment par l'attitude, la recherche de la bonté, de la connaissance de Dieu. Et ça, c'est un vrai désir de Dieu. Hein. Il le dit dans Osée, je désire que vous recherchiez la bonté et ma connaissance. Il y a aussi... dans cette connaissance de Dieu, une autre parole de Jésus, dans un contexte très différent, dans Jean 17, donc c'est juste avant que Jésus commence vraiment, la passion, il commence vraiment à entrer dans ces moments difficiles. Il fait cette prière à Dieu pour remettre ses disciples, donc dans Jean 17, à propos de la connaissance de Dieu. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Là, on a ce lien entre la connaissance de Dieu, qui nous est demandé de rechercher, à la place des holocaustes, et la vie éternelle qui passe par Jésus-Christ. Là, c'est l'éclairage, bien sûr, de l'œuvre de Jésus. Et là, il le dit pour nous, pour ses disciples, pour tous les chrétiens qui suivent. Oui, cette recherche, cette vie éternelle, cette relation avec Dieu, c'est vraiment le désir du Seigneur Jésus et de Dieu même. Et ça passe par Jésus-Christ. Et donc c'est vraiment l'œuvre de Jésus qui importe ici. Et donc là, on comprend que Dieu désire la bonté des êtres humains, c'est son cher désir, et Dieu veut que nous le connaissions. Il y a ce désir de relation de Dieu qui est vraiment présent. Et dans cette... perspective, il y a une autre parole de Jésus dans Jean 4, donc un peu plus tôt. C'est à la suite de l'épisode de la femme samaritaine à qui Jésus demande de l'eau. Jean 4, versets 23 et 24. Donc il y a cette discussion que vous connaissez bien. Et à la fin, Jésus prophétise. Et il dit, « Mais l'heure vient, verset 23 du chapitre 4, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Voilà, là Jésus qui rappelle finalement le projet de Dieu, c'est qu'il recherche des adorateurs. Et ça, c'est vraiment... peut-être une des vérités bibliques les plus claires, c'est Dieu désire qu'on l'adore. Et c'est fou quand même, de quand on prend un peu de recul, d'avoir cette chose si claire, et parfois qu'on manque peut-être un peu, et moi le premier, de manquer notre mission d'adorateur de Dieu, d'une certaine manière. Et là, en prenant encore plus de recul, si on regarde un peu tout le plan de Dieu, vous savez, l'histoire, hein, la création, la chute, le temps, la rédemption, ben on se dit en fait que quand on relie la Genèse avec cet éclairage que le désir de Dieu, c'est de rechercher des adorateurs, ben on se dit en fait il a fait tout ce qu'il a fait, toute la création, les êtres humains au centre de cette création, pour que ceux-ci, Adam et Ève, nous tous, ben on puisse l'adorer en fait. Il a fait ce jardin pour qu'il a vu très bon, il a fait les êtres humains qu'il a vu très très bon, et juste pour que nous l'adorions et qu'il y ait cette relation de Dieu et créature Et là, on se dit, en fait, ma question naïve du début, est-ce un but pour le chrétien? C'est plus qu'un but, c'est sa raison d'être, d'être adorateur de Dieu, de louer, de chanter les louanges de Dieu. Donc là, moi, je suis un peu tombé. J'ai fait, ah oui, quand même, je suis très très loin. Là, mon quotidien, il en prend un coup, parce que si je compte les minutes d'adoration de Dieu, je suis loin que ça représente ma raison d'être, vraiment. Donc je vous confesse ça, vraiment. Et donc j'ai pris un peu un coup et je me suis dit, bon, ok, peut-être je ne suis pas appelé à chanter tout le temps, hein, ce serait lourd, je pense. Surtout la voix déraille au bout d'un moment, donc voilà. Mais voilà, peut-être qu'il y a à comprendre quelque chose. Mais en tout cas, il y a cette vérité certaine qui est d'une clarté immense, je trouve, que Dieu désire des adorateurs et qu'il nous a fait pour être ces adorateurs-là. En esprit et en vérité, je le rappelle, c'est aussi de cet esprit que les êtres humains en ont abusé, je dis d'une certaine manière, de leur liberté et se sont détournés de lui. Et voilà. Et il y a aussi, en y réfléchissant un peu, ce caractère de Dieu qui est ce Dieu jaloux. Et en fait, en le mettant en perspective avec ce désir de Dieu d'avoir des adorateurs, on le comprend en fait. Quand sa propre créature, qui est faite pour l'adorer, se détourne de lui et va voir ailleurs, et forcément, il est en colère, il n'est pas content. C'est une catastrophe. D'où ce caractère jaloux qui peut s'exprimer d'autant plus dans l'Ancien Testament qu'on le voit vraiment assez fort. Et donc là, on le comprend. On comprend pourquoi ça lui fait mal à Dieu, dans son plus cher désir de voir ses enfants, ses adorateurs qui se détournent complètement de lui et qui s'en fichent. Donc là, on compatit d'une certaine manière avec Dieu sur ça. Donc, très très important, notre raison d'être, c'est d'être des adorateurs de Dieu. Donc maintenant, quels sont un peu les types de louanges, d'adoration? Et je ne vais pas m'attarder sur tout, on en a vu beaucoup déjà à travers ce thème au cours de l'année. Voilà, Joël nous a présenté récemment ces louanges dans l'Apocalypse à la gloire de l'année de Dieu. On a eu, moi, ce qui me touche, quelque chose qui me touche beaucoup dans les épîtres, à la suite d'enseignements, de choses parfois difficiles. Voilà, on a les auteurs de ces épîtres qui ont des doxologies, donc des manières de rendre gloire un peu impromptues comme ça, à la suite de passages un peu compliqués. Moi, je trouve ça très très beau. Bien sûr, il y a tous les psaumes, mais il y a aussi le cantique de Moïse et de Myriam qui parle de cette délivrance et qui a un aspect encore plus intéressant quand on le met en perspective avec l'œuvre de Jésus. Voilà, cantique, le premier cantique de David qu'on a étudié. Voilà, il y en a plein, plein, plein. Et donc, je vous invite, vous, à peut-être recueillir les louanges qui vous font du bien, dont vous êtes sensible. Et j'aimerais m'attarder sur quatre louanges, je ne les lirai pas toutes, qui sont dans l'évangile de Luc et qui arrivent très, très rapidement dans les chapitres 1 et 2, et vous allez deviner à quelle raison. Donc on a le cantique de Marie, suite à l'Annonciation. On a le cantique de Zacharie, qui, après la naissance de Jean-Baptiste, reconnaît l'œuvre de Dieu, et qui annonce le Sauveur. On a, on va dire louange, mais c'est la manière de rendre gloire des anges dans le ciel à la naissance de Jésus, et après les bergers qui suivent cette louange. Et on a, c'est celle que je vais lire, le cantique de Siméon à la présentation de Jésus au temple, qui reconnaît dans ce petit enfant, d'une manière très humble, que c'est le sauveur, c'est le salut du monde. Et on va le lire, c'est dans Luc 2, verset 29, à partir du verset 29. Donc Siméon dit « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et en fait, les quatre louanges que j'ai citées, Marie, Zacharie, les anges et Siméon, en fait, on le même thème, qui est la venue de Jésus et la reconnaissance dans sa venue du projet de Dieu qui s'accomplit. Et moi, je trouve ça extraordinaire, parce que Jésus, il est à peine né, voire pas, et un petit enfant, qu'on a déjà des personnes qui ont cette foi immense dans un bébé, et qui le reconnaissent comme le sauveur du monde. C'est quand même très étrange. Donc là, on voit qu'il y a un tournant complet dans l'histoire, dans la venue de Jésus, et que les louanges changent un petit peu de nature. Elles sont tournées maintenant vers Jésus, alors même qu'il n'a pas fait ce qu'il doit faire. Donc moi, je trouve ça assez extraordinaire. Et je pense que, et c'est normal, c'est pour ça que nous, on se réunit le dimanche, c'est pour adorer Dieu, pour louer ce qu'a fait le Seigneur Jésus pour nous. Et c'est naturel, et c'est normal. Et on le voit que, même avant que Jésus fasse cette œuvre à la croix, bah déjà, des personnes louaient ce projet divin immense et qui les dépassait, mais qu'ils avaient compris par la foi, par l'Esprit de Dieu, que ça allait se réaliser, qu'ils allaient être sauvés. Et donc, voilà, le cœur, finalement, de notre louange, il y a eu ce tournant dans la venue de Jésus, c'est voilà, l'œuvre à la croix qu'il accomplit. Et c'est tout à fait naturel pour nous de rendre des louanges à Jésus par cette œuvre. Et c'est l'objet de notre louange, et c'est naturel, et c'est important aussi de le rappeler. Donc voilà, je voulais insister sur ces quatre louanges qui arrivent très très vite, dans ces personnages très différents, et qui rendent gloire à Jésus, qui n'a même pas accompli ce qu'il a accompli. Voilà, pour voir à quel point c'est extraordinaire. Et enfin, je voulais vous partager, moi finalement j'ai fait cet exercice que je vous propose, qui est de relire finalement des louanges, celles qu'on a déjà étudiées, ou parcourir un peu les psaumes, et en fait je me suis arrêté au psaume 150 et au psaume 148 dans cet ordre, qui sont les derniers, donc ça a parcouru longtemps, mais, mais voilà, je me suis arrêté là, et je voulais vous partager ça parce que moi j'ai été vraiment sensible à ça. Donc le psaume 150, qui est cette conclusion en apothéose hein, de ces chants des psaumes. Et donc je pense que c'est pas anodin qu'il soit là à la dernière place. Et ça met en contraste aussi ces psaumes, nombreux psaumes, où il y a cette ambivalence des fois avec des souffrances, et on l'a lu dans le psaume 22, et qui termine aussi en joie. Et c'est fou de vérité, d'humanité, parfois, ces psaumes. Mais ici, voilà, je voulais partager peut-être ces deux psaumes qui sont tout de suite dans la joie. Donc le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Extraordinaire. Non, mais cette fin. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Et c'est un appel immense. Et là, à nouveau, moi je suis un peu petit, un peu penaud. Parce que je me dis, ah oui, la trompette, le luth, l'harpe, etc. Moi, j'ai rien de tout ça, déjà. J'ai délaissé, justement, ma trompette, donc bon, je suis encore plus mal. Mais oui, en tout cas, ce que j'entends par là, c'est louez-le comme vous pouvez, avec tout ce que vous avez, avec cette énergie qui nous est appelée. Et il y a même que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc ça veut dire que même les animaux qui respirent louent l'Éternel. Voilà. Donc c'est un peu fou. Hein. Donc finalement, c'est d'une grande simplicité et juste de se tourner vers Dieu avec tout ce qu'on a. Et voilà, moi j'ai visité quelques églises et à chaque fois je me dis, bah oui, il y a cette louange qui monte vers Dieu dans l'expression qu'elle est là, parce que c'est un peu culturel, etc. J'ai pas eu l'occasion d'aller dans plein de pays différents pour comparer les louanges, mais voilà, bien sûr c'est teinté de culture et parfois on peut avoir un regard un peu interrogateur en mode est-ce que vraiment il loue Dieu, mais quand on voit des choses peut-être un peu plus étrangères à nous. Mais je pense que quand on voit ce psaume qui pour nous est en tant que cette église où on n'est pas très extraverti en termes de louange, il faut l'avouer, et bah c'est quand même extraordinaire. Et il faut le reconnaître que bah ça s'exprime, ça éclate comme ça, et c'est ce qui nous est demandé d'une certaine manière. Et ce dernier verset, en fait, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel, il m'a orienté vers le psaume 148, qui est encore plus extraordinaire dans cette louange qui touche tout. Je le lis. Louez l'Éternel du haut du ciel, louez-le dans les hauteurs, louez-le, vous, tous ses anges, louez-le, vous, toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous, toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres, et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera pas. Louez l'Éternel depuis la terre, vous, monstres marins, et vous tous, océans, foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois du monde et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté domine la terre et le ciel. Il a relevé la force de son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les Israélites, pour le peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Donc, cette dernier verset, on peut le relire aussi au prisme de l'œuvre de Jésus. Relever la force de son peuple, c'est sauver le peuple qui s'est acquis. Et voilà, c'est fidèle, hein, c'est ceux qui se tournent vers lui, les Israélites, les enfants de Dieu qui sont son peuple acquis à travers l'œuvre de Jésus. Mais bref, ce chant, ce psaume, il est extraordinaire. Il nous est dit que des étoiles, à des années-lumière, louent l'Éternel. Moi, je comprends pas. Je sais pas comment. Pourquoi? C'est fou, c'est fou, c'est fou. On n'a même pas existence de tant de choses qui louent l'Éternel. Moi, c'est vertigineux. Et voilà, tout, absolument tout, loue l'Éternel. Et voilà, et enjoint à louer l'Éternel. Voilà, les plus petites choses, les insectes, les feuilles, les arbres, l'herbe, les champs, etc. Tout, tout loue l'Éternel. Et c'est extraordinaire. Et moi, je me dis, mais... Mais comment il loue l'Éternel, toutes ces choses? Moi, j'entends pas le chant des feuilles, de l'herbe, des animaux. Enfin, je sais pas vous, hein, mais j'ai pas l'oreille pour ça en tout cas. Mais donc, il y a quand même un soupir qui nous est inaudible, mais que Dieu entend, de la création, de cette louange qui monte vers lui. Et moi, ça me touche vraiment, et je trouve ça assez extraordinaire en fait. De voir que voilà, on a cette révélation que toute la création se tourne vers Dieu d'une certaine manière et chante ses louanges. Et ça a du sens, puisque si on regarde à nouveau dans ce plan initial de Dieu à la création, dans Genèse, tout était là, tout était bon, et il a mis ses êtres humains, ses animaux, pour être ses adorateurs, et voilà, c'était ça le projet initial. Donc, ça a vraiment du sens que toute la création qui a été établie par Dieu, c'est même rappelé ici, où il a ses décrets, etc., où il donne ses ordres, et ben c'est pour lui, pour Dieu. Et enfin, peut-être finalement tirer quelques réflexions sur ces deux psaumes pour d'abord pour moi, en termes de pratique de la louange, et d'agir en fait du chrétien. Donc comment vivre de louange aujourd'hui? Dans ce psaume 150, je l'ai dit, voilà, il y a toutes ces manières de louer et d'adorer Dieu qui sont très diverses, teintées de notre culture, de notre manière de faire. Mais je pense aussi qu'il y a aussi des compétences un peu à côté qui peuvent être au service de la louange. Et là, je pense par exemple à des albums chrétiens. Il n'y a pas que des chanteurs. Il y a les ingénieurs son, les producteurs, etc. Et ils participent à cette louange. C'est très technique, hein, ce que je dis, mais ça a du sens. Donc il y a peut-être cet effort de louange qui n'est pas que chanter, faire de la musique. Voilà, pour les instruments, par exemple, il faut bien les construire, les fabriquer. Donc voilà, il y a quand même des savoir-faire qui sont autour de cette louange et qui sont, à proprement parler, utiles à la louange. Moi, j'ai l'exemple de mon frère aîné Valentin, qui n'est pas du tout musicien. Il a abandonné la guitare très 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 rapidement. Mais il a des compétences en informatique qui sont excellentes. Et il a aidé l'église à la mulatière dans la sono, dans la vidéo, etc. Il a mis en ordre un peu tout ça. Et parfois, à Orange, comme ils ont une sono un peu bancale, il les aide un petit peu pour régler tout ça, etc. Donc voilà, c'est des compétences à côté, certes, de la louange, mais utiles à la louange. Voilà, donc il y a chacun, comme peut-être dans l'exemple de cette création, qui a sa place dans la louange, et qui n'est pas forcément toujours chanté, hein, voilà. Mais qui peut être ça. Vraiment. D'autres exemples, peut-être. Oui, moi, c'est aussi un encouragement que je me donne à moi-même, mais c'est finalement... dans les sphères familiales, amicales, professionnelles et étudiantes, voilà, dans nos rapports sociaux, louer Dieu. Voilà, c'est compliqué d'un coup. Parce que y reconnaître la main de Dieu dans des œuvres pour notre vie ou pour nos proches, d'accord, intérieurement, c'est pas très difficile. Mais le proclamer, là, moi, j'ai beaucoup plus de mal. De dire, bah, merci Seigneur à la personne à laquelle il est arrivé quelque chose. Moi, reconnaître devant cette personne que le Seigneur a agi pour moi, bah, c'est vrai que j'ai du mal, d'une certaine manière, de témoigner, de rendre louange à Dieu, de manière à voix haute, vraiment, à des personnes, pour dire que, oui, je loue Dieu, parce qu'il a fait ça, parce que c'est ça. Après, je ne dis pas qu'il faut le faire intempestivement, hein, surtout pas. Mais voilà, des fois, peut-être des élans, en tout cas moi, je sais que je réfrène des fois des élans de louange à Dieu, que je n'exprime pas à voix haute alors que c'est légitime. Voilà, donc c'est un encouragement que je me fais d'abord à moi, mais à vous tous, qui est peut-être de se donner, voilà, d'aller au bout peut-être de cette louange qui est parfois intérieure et de vraiment se tourner vers Dieu et de ne pas croire peut-être que c'est seulement de la prétention de dire que Dieu a fait ça pour moi, mais que c'est juste tourner vers Dieu et que ça peut vraiment... avoir du sens pour la personne qui est là, qui nous écoute, etc. Il y a aussi autre chose, et je l'ai dit en introduction, j'écoute pas beaucoup de musique, mais je pense que c'est important d'écouter de la louange. C'était en colo, je crois, à Lézin. C'était à la fin de la colo, je crois que mon moniteur m'avait partagé des chœurs de chrétiens. Et c'était super chouette, je m'étais beaucoup plongé dedans et écouter, etc. Je peux pas dire, enfin je sais pas, mais en tout cas ça a nourri vraiment une relation avec Dieu, d'écouter de la louange. Je sais pas si ça m'a transformé, je peux pas le dire, mais en tout cas ça a fondé quelque chose de vraiment une relation peut-être plus, plus quotidienne, disons, avec Dieu. Et donc ça a son importance d'écouter la louange, je trouve, vraiment. En tout cas, moi, je sais que ça a eu un impact un petit peu là-dessus. Et ça nourrit effectivement notre relation à Dieu. Après, il y a aussi d'autres enseignements, et je vais peut-être un peu plus vous surprendre, sur le psaume 148, où il y a toute cette création hein, qui loue Dieu. Effectivement, si on est un peu comptable de la louange, puisque toute la création loue Dieu, si la création diminue, elle loue moins Dieu. Et comme je le rappelle, le premier désir de Dieu, c'est que la louange monte vers lui. Donc si on fait le raisonnement, moins de création, Dieu pas content. Voilà. C'est le résumé très rapide. Mais voilà, ça le mérite d'être pensé, en tout cas je pense, de rappeler ça. C'est que ouais, la création est là autour de nous. On a ce mandat un peu compliqué à comprendre d'être là avec la création et de la garder. Et elle fait monter des louanges vers Dieu. Et donc moi, je me dis, mais si on détruit de manière déraisonnable cet environnement qui est autour de nous, par ce raisonnement de la louange, ça fait mal à Dieu. Et finalement, ça monte, vous le comprenez bien, un sentiment un peu écologique de respecter, d'accompagner cette création. Voilà, je ne vais pas vous dire quoi faire, mais voilà, c'est c'est un peu compliqué, mais moi en tout cas je suis sensible à ça, je me dis quand même le fait de respecter la création, en fait j'accompagne cette création qui fait monter des louanges vers Dieu et ça me réjouit et je sais que ça réjouit Dieu. Donc voilà, il y a ce cercle vertueux de la louange avec la création et qui monte vers Dieu. Et voilà, d'avoir peut-être cette réflexion comptable de la louange, un peu étrange, mais ça a le mérite de peut-être de se dire effectivement, peut-être ça fait pas plaisir à Dieu quand on n'a pas des arbres qui étaient très bien, voilà, juste pour le projet de mettre du béton dessus, c'est peut-être pas très malin, voilà. Peut-être questionner un peu plus nos intérêts là-dedans. Après, bien sûr, voilà, je sais qu'individuellement, c'est très con, on ne peut pas changer les choses tout seul dans notre coin. Mais que si on est plusieurs, justement, ça peut changer le regard qu'on a sur les choses et sur notre société. Et si justement notre société arrive à se dire, ben, voilà, nous secrètement on dit, voilà, on protège la création pour que les louanges montent à Dieu, ben c'est génial comme projet. Et voilà, donc j'avais à cœur de vous partager ça aussi. Et on le voit bien aussi dans. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup quand je vais voilà, me balader, faire du sport, etc. Bah, j'ai, sans rien dans les oreilles, bah, tout de suite, mon regard se pose sur la création, sur les arbres, les fleurs, etc. Et en fait, je viens tout de suite me dire bah, merci Seigneur pour ça. C'est une joie vraiment de voir ce que tu as fait pour moi. Voilà, l'air qui est là dehors, c'est aussi le fruit de cette nature. Qui me donne l'oxygène dont j'ai besoin pour vivre. Et c'est extraordinaire. Et après, si on réfléchit à toutes ces implications, toutes ces intrications, voilà, toute cette interdépendance, bah, c'est vertigineux et on voit que en fait, le projet de Dieu il est extraordinaire. Donc voilà, ce psaume 148, en fait, il est profondément écolo, quoi. Que, si vous ne l'aviez pas lu comme ça, bah, moi, je vous le propose comme ça, quoi. Et finalement, c'est. Dans cette réflexion de vivre de louange, donc on a voilà, notre raison d'être, c'est vraiment d'adorer Dieu, et c'est le plus cher désir de Dieu que nous l'adorions. Voilà, avec la révélation de Jésus, on a cette œuvre qu'il a faite qui devient le centre de notre louange, et c'est naturel, et c'est normal, c'est pour ça qu'on se réunit le dimanche. Et voilà, moi je vous invite à chercher dans les psaumes et dans d'autres cantiques qui sont dans la Bible. Voilà, cette sensibilité à la louange de Dieu, vous nourrir de cette louange pour nourrir votre relation à Dieu. Et voilà, c'était ce que j'avais à cœur de vous partager. Voilà. Merci.